Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, merci d'être une nouvelle fois au rendez-vous de ce magazine qui, je l'espère, vous donne à penser. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une notion importante qui s'est répandue ces dernières années dans le milieu de la recherche en sciences humaines, la notion de décolonial. Les théories décoloniales ont gagné du terrain, en effet, dans le milieu universitaire, mais elles sont aujourd'hui remises en question. Dans un livre collectif éclairant qui s'intitule « Critique de la raison décoloniale sur une contre-révolution culturelle », quelques chercheurs, spécialistes, historiens, sociologues, philosophes s'interrogent sur sa pertinence scientifique. Parmi eux, Pierre Gossin, s'il est avec nous, il écrit dans sa contribution à l'ouvrage « Avec les études décoloniales, nous faisons face à une nouvelle phase de ventriloquie au dernier avatar d'une piraterie intellectuelle qui non seulement tente à domestiquer, voire à effacer des projets politiques rebelles et émancipateurs, mais qui a également été activement complice de formes de domination. Les mots sont forts, le paradoxe ne l'est pas moins, nous allons en parler dans un instant. Il est donc un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur le site de la radio et l'appli RFI Pure Radio par exemple. Bonjour Pierre Gossens.
Bonjour.
Je suis heureux de vous inviter dans cette émission, car vous êtes en France en ce moment, alors que vous travaillez et que vous êtes quasiment mexicain. Vous êtes enseignant-chercheur au Collège du Mexique. On peut parler un instant du Collège du Mexique ?
Oui, le Collège du Mexique, c'est une université publique dédiée à la recherche et à l'enseignement en sciences sociales et humaines. Il y a de nombreuses disciplines des sciences sociales et humaines qui sont représentées dans ce centre de recherche public au Mexique, qui est basé à Mexico. Et je me trouve en ce moment en résidence de recherche à Paris, à l'Institut d'études avancées de Paris, avec un rattachement au laboratoire d'anthropologie politique de l'EHESS.
Vous êtes spécialiste des conflits sociaux et des violences politiques en Amérique latine, un continent que vous connaissez particulièrement bien.
J'ai vécu, en plus du Mexique, dans d'autres pays latino-américains. Avant d'être au Mexique, j'ai vécu également au Chili, au Venezuela et en Équateur, où j'ai passé de nombreuses années.
Alors, les co-auteurs de ce livre collectif important sont tous latino-américains, d'ailleurs.
Oui. Soit on vit en Amérique latine, soit on est originaire d'Amérique latine. Donc, les auteurs sont principalement argentin, mexicain et chilien.
Oui, on verra pourquoi dans un instant, hein, pourquoi nous allons beaucoup parler de l'Amérique latine. Je citais une phrase un peu choc de vous dans l'introduction à propos des études décoloniales. Je parlais de ventriloquie, il faut peut-être rappeler ce que ça veut dire dans le langage des sciences humaines.
On sait tous que c'est un ventriloque, oui. Non, quelqu'un qui fait parler une marionnette. Nous, ce concept, on le reprend d'un anthropologue équatorien qui s'appelle Andrés Guerrero, qui avait développé ce concept. Et c'est l'idée qu'on parle au nom de l'altérité, au nom des autres, au nom d'une autre population, et on lui fait dire un peu ce qu'on veut, non, comme un ventriloque. Donc c'est cet art de parler au nom des autres de la façon la plus légitime ou inaperçue possible. Non, parce que le ventriloque, il faut pas qu'on voit qu'il est en train de parler.
Oui, bien sûr.
Non, il faut pas qu'on voit ses lèvres bouger. Donc c'est un peu le jeu de la ventriloque, qui sait parler au nom de l'autre sans qu'on s'en aperçoive.
Quels sont, Pierre Gossens, vos domaines de recherche en Amérique latine précisément ?
Moi, je suis sociologue spécialisé dans la violence, et en particulier, ce qui m'intéresse, c'est les réponses sociales face à la violence. C'est-à-dire comment les gens arrivent à s'organiser des fois pour faire face à différentes formes de violence à travers différentes formes d'organisation sociale. Donc c'est quelque chose qui est assez éloigné de l'objet de ce livre, donc, que nous avons fait, disons, en parallèle de nos projets de recherche respectifs.
Alors la question n'était pas innocente, Pierre, parce que je me suis demandé ce qui vous a amené à écrire ce livre collectif, ensemble, Critique de la raison décoloniale. Pour quelle raison vous l'avez-vous fait ?
Mais c'est une forme d'agacement, une espèce de ras-le-bol, surtout par rapport à l'enseignement. On l'a fait, ce livre, au début, surtout en pensant aux étudiants, dans un premier temps, les étudiants avec qui on travaille, avec qui on partage la salle de cours, mais aussi en passant au monde militant, d'une certaine façon, parce que nous sommes des scientifiques engagés, nous accompagnons ou avons accompagné certains processus d'organisation sociale ou de lutte sociale très diverses en Amérique latine. Et on voit aussi que cette perspective décoloniale, elle est de plus en plus importante dans le champ des mouvements sociaux. Et on s'est, en tant que professeur, on a trouvé de plus en plus d'étudiants qui s'étaient convertis à cette perspective décoloniale, mais d'une façon assez rudimentaire et commençaient à développer des thèses assez réductrices, assez simplistes pour comprendre l'histoire de l'Amérique latine, de l'Europe, et de là cet agacement qui est venu, disons, alimenter ce besoin d'une critique, ce besoin de prendre un moment, d'essayer de réunir des gens et de créer cet espace collectif pour formuler une critique à ces thèses, dans la mesure où elles peuvent présenter certains dangers quand elles sont mal interprétées ou quand elles présentent certaines dérives essentialistes, que ce soit de la part d'étudiants ou de militants.
Alors évidemment, nous allons y revenir, mais pour bien comprendre d'où vient cette critique, d'où vient votre critique collective, vous avez dit que vous étiez des chercheurs engagés, ça veut dire quoi précisément ? C'est-à-dire que vous avez une couleur politique, un engagement militant, politique ?
Disons qu'on considère que la science sociale ne peut pas se faire d'une façon neutre vis-à-vis du politique. Non, c'est la vieille discussion weberienne entre le savant et le politique. Et nous rejetons cette opposition un peu fictive entre le savant et le politique. Nous pensons que l'engagement politique nourrit d'une certaine façon la recherche scientifique et elle permet aussi de donner du matériel empirique, elle permet de se frotter aux réalités du monde social, à ses enjeux, à ses luttes. Après, c'est un militantisme, ou un engagement politique assez modeste. Non, on parle, dans mon cas, je ne vais pas parler pour les autres auteurs, mais dans mon cas, c'est peut-être, par exemple, la participation dans une université populaire pour donner des cours à des enfants de populations défavorisées, paysans, indigènes, afrodescendants, pour garantir un certain accès à l'éducation supérieure, accompagner certaines organisations sociales dans leur démarche vis-à-vis des pouvoirs locaux, c'est ce genre de choses.
Pierre Gossens, je vais d'abord vous demander quelques définitions, parce que dans ce domaine, il y a tellement de mots employés qu'on finit par les confondre, ne plus connaître leur sens précisément. Qu'est-ce que le décolonial ?
Le décolonial, c'est un courant de pensée, c'est une perspective qui a ses origines, mais qui aujourd'hui est très large, et s'est répandue, et du coup, c'est un terme qui aujourd'hui est assez galvaudé. Non, et de là le
justement,
problème.
De la nécessité de le définir.
Par exemple, il y a Stéphane Dufoy, un sociologue qui vient de publier, il me semble, l'an dernier, un livre qui s'appelle « Décolonial ». Et justement, lui, il s'intéresse à la réception du concept, à l'usage social de ce concept. Mais disons que nous, ce qu'on fait, on essaye de revenir un peu aux origines. Et les origines, elles sont latino-américaines. C'est un courant de pensée qui naît au tournant des années 2000-2010. C'est un groupe d'universitaires, hein, de chercheurs qui se réunit d'origine latino-américaine. Disons que grosso modo, la moitié est en poste aux États-Unis, l'autre moitié travaille en Amérique latine. Ils forment une espèce de réseau, de groupe de travail qui va s'appeler « Colonialité-modernité ». Et là, on retrouve des auteurs assez importants, disons, pour l'Amérique latine. Et c'est eux qui vont forger ce concept de colonialité et du décolonial. Donc, on peut remonter à cette origine. Après, il y a eu des développements. Nous, on concentre notre critique sur ce groupe fondateur, non, des pères fondateurs, disons, entre guillemets, cette première vague.
Non, le noyau fondateur.
Le noyau dur. Mais après, il y a eu des bifurcations, il y a eu des développements. Aujourd'hui, il y a un féminisme décolonial dont nous ne parlons pas dans le livre. Il y a une écologie décoloniale. Et à l'intérieur du courant décolonial, ben, il y a eu aussi des contradictions, des tensions, voire des disputes entre ces mêmes auteurs. Donc c'est quelque chose qui s'est diversifié et complexifié aujourd'hui.
Et donc précisément, le décolonial, ça veut dire quoi ? Pour avoir une définition la plus précise possible en fonction de vos travaux et de votre expérience. C'est supposé être la trace de la colonisation survivant aujourd'hui.
Oui, donc, oui, il y a vraiment cette idée. Le décolonial, la perspective décoloniale a comme concept central la colonialité. C'est la colonialité qui se décline de différentes façons. Il y a la colonialité du pouvoir, du savoir, de l'être. Mais cette idée de colonialité, c'est justement l'idée qu'aujourd'hui, il existe des schèmes globaux de pouvoir qui sont héritiers du colonialisme historique, qui continuent à se reproduire dans les sociétés en opposant le Nord et le Sud et différentes catégories de population au sein même des différents États, qui est héritière de ces processus de colonialisme interne que n'a pas réussi à rompre, disons, les processus d'indépendance politique des pays, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique et en Asie. Et aujourd'hui, ces grands schémas, cette logique de domination globale héritière du colonialisme historique, elle continue à se reproduire. Et elle explique en grande partie les rapports de domination d'aujourd'hui qui divisent le monde entre pays dominés et pays dominants qui sont, la plupart du temps, ex-colonies et anciennes métropoles.
En gros, c'est l'opposition, en gros, pour schématiser, entre le Nord et ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, par exemple.
Oui, 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 il y a clairement un antagonisme de ce point de vue décolonial entre un Occident un peu fantasmé, non, c'est ce que je dis dans mon interview au Monde, mais il y a cette idée d'un Occident, après il faudrait le définir,
oui,
ça commence
venir,
où,
on
ça,
on
ça finit où,
ouais.
Et le Sud global qui est aussi très problématique, non, le Sud global c'est vraiment le fourre-tout, non, c'est une catégorie catch-all, mais il y a cette idée d'un antagonisme, et cet antagonisme il est historique, évidemment on remonte au processus de colonisation, et dans le cas du décolonial latino-américain, on remonte à la conquête des Amériques, à la colonisation et à la date emblématique de 1492.
Arrêtons-nous sur un autre mot que vous avez prononcé, la colonialité.
La colonialité...
Je m'arrête sur le vocabulaire parce qu'on a un grand besoin de compréhension des mots.
C'est ce schéma de pouvoir global, mondial, dont je parlais, et qui remonte à la conquête des Amériques, et qui, au fil des différents processus de colonisation, d'abord en Amérique, puis après en Afrique et en Asie, c'est celui qui va structurer les relations internationales, et celui qui se reproduit jusqu'à nos jours et qui explique en grande partie encore aujourd'hui la domination du Nord sur le Sud.
Enciende noches oscuras como un gorgorio que encanta.
suite de ce numéro d'idées, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Gossens, qui a coécrit avec d'autres auteurs dont nous allons parler ce livre important collectif publié aux éditions L'Échappée qui s'intitule « Critique de la raison décoloniale ». Donc, nous l'avons compris, Pierre Gossens, il s'agit de chercheurs latino-américains qui mettent l'Amérique latine au cœur de leur raisonnement.
Oui, et c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un comme Michel Caen, un historien français, parle d'orientalisme à rebours.
D'ailleurs, Pierre, je voudrais signaler la publication par Michel Caen de ce livre qui s'intitule « Plaidoyer pour la précision d'un concept précisément ».
Colonialité.
Colonialité, oui. Publié chez Cartala.
Donc ça, c'est un premier paradoxe qu'on retrouve chez les auteurs des coloniaux latino-américains. Il y a une critique très forte, surtout de la colonialité du savoir et de l'eurocentrisme, c'est-à-dire ce qu'ils appellent, eux, l'épistémé, ou ce socle commun européen, eurocentrique, de la production des savoirs et des connaissances qui dominent aujourd'hui les sciences mondiales, et comment cet eurocentrisme, par le prisme de la production culturelle et des savoirs, est un socle important de ce schéma de domination mondiale. Mais en ce faisant, cette critique de cet ethnocentrisme européen, il produit une espèce d'ethnocentrisme à rebours, parce qu'eux, ils essayent de ramener cette histoire, cette vieille histoire et la construction de la modernité et des processus de formation du capitalisme à l'Amérique latine. Donc, on va revenir aux conquêtes des Amériques, on va l'établir comme le moment fondateur de la modernité occidentale capitaliste. Et en ce sens, c'est tout à fait paradoxal, parce que les études décoloniales tendent à reproduire ce qu'elles critiquent. Non ? Mais maintenant, c'est une espèce d'ethnocentrisme dominé et latinocentré.
Avec une date clé qui est au cœur de leur raisonnement, 1492.
Évidemment. 1492 et l'arrivée de Cristobal Colomb et le début de la colonisation des Indes et du génocide des peuples autochtones de l'Amérique. Donc c'est vraiment une date que les décoloniaux tiennent comme fondamentale, en ce sens où ce serait la date départ, disons, de la construction du capitalisme et de la modernité occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment ça a suscité beaucoup de controverses et de polémiques chez les historiens, parce que l'histoire du capitalisme, c'est pas quelque chose sur laquelle on n'a pas travaillé, non ? Depuis Marx,
il y a quelques travaux.
Il y a eu beaucoup de thèses, non ? Depuis le Capital de Marx, il y a eu beaucoup de thèses et de théories émises, surtout dans le marxisme, pour expliquer la naissance du capitalisme moderne. Et là où on peut rejoindre les décoloniaux, c'est l'importance de cette première vague de colonisation pour les processus d'accumulation originaire qu'appelait Marx. Non, cette première concentration de richesses produite par la spoliation, l'exploitation des richesses naturelles et de la main-d'œuvre esclavisée de l'Amérique. Donc là, on peut être d'accord. Mais après, il y a quand même une différence à faire dans ces processus d'accumulation du capital, ce que fait Marx justement dans le Capital. Et après, il parle de processus d'accumulation amplifié, où là, on rentre au cœur du sujet du capitalisme et il faut attendre la révolution industrielle. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que ces processus se mettent en œuvre. Donc il y a une forme d'anachronisme dans certaines thèses défendues par les décoloniaux depuis cette perspective très latino-américano-centrée.
Et il y a cette thèse selon laquelle les Européens, les Occidentaux, avec tous les guillemets nécessaires, auraient aussi apporté le racisme.
Oui. Oui, ça c'est un autre problème que nous voyons dans ces thèses, c'est que, par exemple, le sociologue péruvien Aníbal Quijano, qui est l'inventeur du concept de colonialité, lui, il avance que le concept de race est justement inventé comme mécanisme de soumission, d'assujettissement des peuples colonisés, et c'est ce concept de race qui est central chez les décoloniaux, qui va permettre le développement de ce schéma, de cette logique de domination mondiale. Donc là aussi, on retrouve un anachronisme dans le sens où l'idée de race et de racisme serait déjà présente dans les, au XVIe ou au XVIIe siècle. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui que l'idée qu'on a du racisme contemporain, cette idée de racisme biologique, elle ne naît qu'au XIXe siècle.
Oui.
Donc là aussi, il y a un problème d'interprétation historique.
Alors, dans l'article que vous avez publié dans ce livre, Pierre Gossens, avec Gaïa Macaran, vous jouez avec le titre d'un livre célèbre, « Peau noire, masque blanc », 1952, de Frantz Fanon. Et votre article, lui, est intitulé « Peau blanche, masque noir, les études des coloniales, autopsie d'une imposture intellectuelle ». Pourquoi ce renversement d'un livre célèbre, pour le moins ? Important sur cette question de racisme, de colonialisme, notamment.
C'était un jeu de mots assez osé, mais on l'a fait parce que Frantz Fanon, ça nous semblait très important de reprendre le fil de sa pensée, que nous considérons encore actuelle.
Qui est d'une pensée universaliste.
Voilà, c'est très important de le dire, parce que justement, nous, ce que nous essayons de faire, c'est de distinguer cet anticolonialisme classique qui a été produit au cours du XXe siècle et qui était produit par des intellectuels engagés dans les processus de décolonisation, surtout en Afrique. Il y a Frantz Fanon, il y a Aimé Césaire, il y a Senghor, il y a beaucoup. On peut penser à Ho Chi Minh en Asie ou à Gandhi, par exemple. Et à partir de cet ancrage militant dans les processus de décolonisation, on a des intellectuels engagés qui ont produit beaucoup de savoirs qu'aujourd'hui on reconnaît comme l'anticolonialisme classique, mais qui avaient une vision beaucoup plus dialectique des choses si on la compare avec la perspective décoloniale, dans le sens où, si bien ils reconnaissaient la domination ethnique, raciale et le problème du racisme qui avait justifié l'entreprise coloniale, il combinait aussi cette critique avec la lutte des classes, parce qu'ils avaient aussi une formation dans le marxisme.
D'ailleurs, vous écrivez, Pierre Gossens, avec votre co-autrice, « L'anticolonialisme de Fanon, fondé sur un universalisme humaniste et libertaire, s'accompagne d'un diagnostic marxiste sur l'exploitation capitaliste ».
Donc c'est justement l'avertissement de Fanon que nous, on voulait reprendre dans le livre, c'est ne pas se laisser piéger, ne pas se laisser enfermer, selon ses mots, dans la cage ou dans la prison des catégories coloniales. Parce que quand on parle de blanc, de noir, de métis, de créole, d'indien, tout ça, ce sont des catégories historiquement construites par le colonialisme, dans le colonialisme. Et continuer à utiliser ces catégories, c'est ne pas sortir du piège colonial, que ce soit par les mots. Non, c'est l'avertissement que nous fait Fanon, et c'est pour ça que nous le reprenons.
Ah, vous écrivez aussi, Pierre Gossens, Fanon nous avertit que le problème du noir, entre guillemets, n'est pas le blanc, entre guillemets, mais une société capitaliste colonialiste accidentellement blanche qui l'exploite et le racialise pour légitimer son exploitation. Donc la couleur est en fond, mais n'est pas primordiale.
Voilà, et c'est ce que disait justement Fanon, que le racisme n'est pas un moteur de l'histoire, que le racisme n'est pas la cause de l'exploitation, de la domination des peuples colonisés ou des pays du Sud. Mais la conséquence de processus d'accumulation, d'exploitation, de conquête, de colonisation, qui ont permis la domination du Nord sur le Sud, mais qui se fonde beaucoup plus sur des processus économiques et politiques de domination, plus que sur une hégémonie culturelle. Qui est là, qui existe, on ne peut pas le nier, mais on ne peut pas non plus résumer toute cette histoire de domination au simple fait culturel ou de la production des savoirs.
Donc en ce qui concerne l'Amérique latine, le 1492 implique un changement, une destruction des civilisations qui vivaient sur le continent et le début d'un processus différent marqué par le racisme et l'exploitation.
Oui, du point de vue décolonial, oui.
C'est ça. Oui, je me mets à la place des décoloniaux.
Oui, bien sûr. Après, ce qu'il faut bien voir aussi dans le cas de l'Amérique latine, c'est que les processus d'indépendance, ils ont été dans les années, on parle là du début du 19e, les processus d'indépendance ont été menés par les descendants des colonisateurs, non, par les Espagnols ou les descendants des Espagnols. Et les peuples autochtones et afrodescendants du continent ont été mis de côté ou simplement utilisés dans ces gestes, dans ces processus d'indépendance. Donc il y a une légitimité à questionner la reproduction des schémas coloniaux, étant donné que, encore aujourd'hui, les élites gouvernantes dans beaucoup de pays, que ce soit politiques ou économiques, sont elles-mêmes descendantes de ces mêmes colonisateurs.
Il faut rappeler que, c'est ce que rappelle un des co-auteurs, que si on parle d'Indien, c'est que Christophe Colomb était persuadé d'avoir découvert l'Inde.
Ah ben oui, ça c'est une erreur historique. Et encore aujourd'hui, bon là, on ne parle plus d'Indien, mais... au Mexique, par exemple, encore dans les années 90, on parlait d'Indiens, non ? C'est-à-dire 500 ans après l'erreur historique de Colomb qui pensait avoir être arrivé à Calcutta au lieu d'être arrivé à, dans les Caraïbes, on continuait à reproduire cette erreur historique. Donc là, on voit la raison quand même, on voit la continuité de ce genre de... d'erreurs historiques et de ces processus de colonisation qui continuent à modeler d'une certaine façon les sociétés latino-américaines.
Alors, ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire, là j'essaie encore de me mettre à la place des tenants de cette idée décoloniale, ça veut dire que, en quelque sorte, avant 1492, il y avait les bons sauvages de Jean-Jacques Rousseau, par exemple.
C'est une des critiques que nous formulons, parce que... disons que il est très important de valoriser les cultures des peuples autochtones, leur langue, leur savoir. Nous ne disons pas le contraire.
Bien sûr, évidemment. Oui.
Mais ce que nous disons, c'est qu'il ne faudrait pas non plus... on ne peut pas, d'un coup de baguette magique, faire disparaître 300 ans d'histoire coloniale. Non, et puis après 150 ans, ou aujourd'hui 200 ans d'histoire indépendante, non, nationale, disons. Et que le retour à un espèce de paradis perdu en 1492, aujourd'hui, est strictement impossible. Mais même les organisations des peuples autochtones aujourd'hui, ce n'est pas leur, leur revendication. Il peut y avoir un discours millénariste comme ça qui essaye de... reprendre cette idée d'utopie ou de monde meilleur perdu, mais on ne peut pas non plus faire fi de ces 500 ans qui ont passé depuis l'arrivée de Christophe Colomb. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est un rapport beaucoup plus dialectique. D'un côté, revaloriser toutes ces cultures qui forment le substrat de beaucoup de cultures dans les pays latino-américains, avec quelques exceptions, et en même temps, affronter cette modernité, non, cette modernité, et voir comment on peut conjuguer ces deux grandes traditions dans lesquelles se trouve un peu à la croisée des chemins en Amérique latine, entre la matrice méso-américaine, autochtone d'un côté, et cette modernité capitaliste de laquelle fait partie évidemment l'Amérique latine.
Suite de ce numéro d'idées, nous consacrons ce numéro à la critique de la raison décoloniale, pour reprendre le titre d'un livre collectif publié aux éditions L'Échappée, critique de la raison décoloniale sur une contre-révolution intellectuelle. Nous sommes en compagnie d'un de ses auteurs, animateurs de ce livre, Pierre Gossens. Un autre des contributeurs à ce livre, critique de la raison décoloniale, Rodrigo Castro Orellana, écrit ceci. Ce postulat relève la nature réactionnaire de la perspective décoloniale qui consiste à croire qu'une véritable réflexion sur l'Amérique latine ne devrait jamais utiliser des sources qui ne correspondent pas au corps d'énonciation latino-américain, ou ce qui revient au même, qu'il faudrait rejeter toute intrusion d'un discours issu de la corpo-géopolitique du savoir européen. Fin de citation. C'est-à-dire que seuls les universitaires latino-américains peuvent comprendre l'histoire du continent latino-américain.
Mais justement, ça c'est le danger scientifique et politique de cette critique à l'eurocentrisme. Une chose, c'est reconnaître cet impérialisme culturel ou cette hégémonie occidentale dans la production, surtout des savoirs scientifiques, ce qui est une chose. Et l'autre chose serait de rejeter en bloc tout ce qui vient de l'Occident, que ce soit les États-Unis ou l'Europe. Et ça, c'est un danger, justement, et c'est une dérive qu'on a pu observer parmi certains étudiants ou militants ou collègues qui, du coup, décident de ne plus utiliser certaines sources ou certaines méthodes ou certains corpus ou certains courants de pensée parce qu'ils sont taxés d'eurocentriques ou c'est un auteur. Non, par exemple. Et là, c'est vraiment problématique, non ? Parce que c'est se priver de tout un bagage, de toute une richesse qui a fait aussi l'histoire de l'Europe, en commençant par les Lumières, non ? Par exemple. Il est tout à fait légitime de critiquer aujourd'hui les Lumières, une prétention positiviste, universaliste, mais il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain.
Oui, c'est l'aspect systématique qui est gênant, effectivement, ce rejet systématique de la part de certains.
Oui, donc il faut aussi voir une certaine diversité dans ces approches. Il y a, des perspectives plus hétérodoxes qui comprennent la nécessité d'utiliser également des savoirs dits hégémoniques ou plus traditionnels, scientifiques. Mais il y a des positions beaucoup plus orthodoxes. Non, orthodoxes qui tendent à rejeter en bloc tout ce qui vient de l'Europe. Et là, on tombe dans une espèce d'anti-Europe ou d'anti-occidental qui rejette en bloc tout ce qui viendrait de l'Europe ou des États-Unis. Et ça, c'est une tendance qui, paradoxalement, peut déboucher sur des pratiques racistes ou xénophobes.
C'est ce que vous écrivez dans le livre, Pierre Gossens. Vous écrivez à cet égard « Les nombreux problèmes théoriques posés par les études décoloniales renferment les dangers potentiels, leurs interprétations pouvant contribuer à justifier des pratiques discriminatoires et excluantes, parfois même ouvertement racistes et xénophobes, dans les espaces où celles-ci parviennent à rencontrer un certain écho, surtout à l'intérieur du monde étudiant, mais aussi dans les organisations formées par les peuples indigènes et afro-descendants. » Vous y allez fort, là.
Mais c'est un danger qu'on a pu observer, nous-mêmes. Moi, par exemple, dans mon modeste travail militant que j'ai pu mener à bien dans le sud du Mexique auprès de populations autochtones, qu'elles soient indigènes ou afrodescendantes, c'est des pratiques, des discours que j'ai pu moi-même observer. Où, des fois, dans certaines situations, on peut être mis en cause, mais pas du fait de ses intérêts ou de ses prises de position ou de ses prises de parole, mais du simple fait de sa couleur de peau ou sa nationalité, par exemple. Ce qui est tout à fait problématique. Et là, c'est encore une autre critique que nous faisons à cette idée d'une géopolitique de la pensée qu'avancent certains auteurs décoloniaux, comme si le savoir avait une patrie. Non, en quelque sorte, et comme si le seul fait qu'un auteur soit, par exemple, de nationalité française ou soit né quelque part ou ailleurs, aurait automatiquement une signification géopolitique ou épistémologique sur la façon dont le savoir est construit, non ? Et ce qui est tout à fait problématique. Alors que pour vraiment comprendre la portée géopolitique ou l'intention politique d'une œuvre, il faut mettre en relation le producteur de cette œuvre avec un champ de production, avec des moyens de production, avec un marché, à qui est destinée cette œuvre, etc. Non ? Et pas réduire ça à... On a les bons intellectuels du Sud d'un côté et les méchants du Nord de l'autre. C'est se couper d'un échange culturel, c'est se couper d'un dialogue entre pays, entre traditions de pensée, entre cultures différentes. Et la construction, que ce soit du savoir scientifique ou la production d'œuvres culturelles et artistiques, elle est enrichie par ce dialogue interculturel, par ce métissage, par ces formes d'hybridation, produits de migration et d'échanges commerciaux, etc.
Qui plus est dans un monde mondialisé, si j'ose dire.
Oui, donc là, c'est là où on retrouve en fond un problème ou un danger aussi, dans le sens où ces thèses décoloniales un peu poussées à l'extrême, un peu tirées par les cheveux, pourraient faire écho à des thèses réactionnaires comme celle, la thèse du choc des civilisations de Samuel Huntington. Donc il est clairement de l'autre côté de l'échiquier politique, mais c'est cette idée qu'il y aurait de grands blocs culturels homogènes opposés, donc l'Occident d'un côté, l'Amérique latine de l'autre, l'Afrique de l'autre côté, chacun avec sa propre épistémé, sa propre...
D'ailleurs sa propre source de connaissances, ses références intellectuelles. Oui.
Voilà, mais coupé. Couper l'une de l'autre et pas un dialogue, pas un ou un débat critique, hein, comme on peut on l'a vu avec des déclarations du président sur l'Afrique et les interventions militaires en Afrique. L'important, c'est d'avoir ces discussions critiques et de continuer à faire ce travail d'histoire et de mémoire autour de la colonisation.
Ce qui est gênant, c'est effectivement cette réification, enfin cette transformation de l'Occident en un bloc monolithique.
Oui, ça c'est une autre critique que nous formulons également dans le livre, de considérer ces grandes régions, que ce soit l'Amérique latine ou l'Afrique ou l'Europe, comme grands blocs homogènes, sans fissures, sans contradictions internes, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et nous le savons très bien en Europe que c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus complexe, hétérogène, et pareil pour l'Amérique latine ou n'importe quel continent. C'est pour ça que nous préférons parler de colonialisme interne dans notre cas, pour justement montrer que, en termes historiques, ce colonialisme externe à l'Europe, ces processus de colonisation européenne du monde, ils succèdent à des processus internes de colonisation. C'est très important, par exemple, de se rappeler qu'une des croisades qui avait pour destination Jérusalem a été détournée pour coloniser les peuples du sud de la France, par exemple. Non, je parle des Albigeois et des Cathares. Moi, je suis moi-même descendant de ces peuples. Donc, c'est pour ça que j'en profite un peu. Mais un Catalan, un Écossais, un habitant de la Crimée, par exemple, ce sont des témoins vivants. Ou un Polonais vous pourra vous parler, que ce soit du colonialisme russe ou du colonialisme allemand, ou du colonialisme français qui s'est aussi exprimé à l'intérieur de l'Europe. De même que cette pensée anticolonialiste ou régionaliste, comme dans le cas de l'Occitanie, par exemple, s'est exprimée ici même. Et donc il y a toute une richesse qui tend à être niée, et ça c'est très problématique quand on se coupe de toute cette pensée critique européenne très riche qui pourrait très bien dialoguer avec la pensée critique latino-américaine.
Thank you.
L'idée, la parole à ceux qui pensent le monde.
Pierre Gossens, Daniel Inclan, je ne sais pas si on prononce ce nom comme cela, dans sa contribution intitulée « Elle, l'histoire en débat, le problème de l'intelligibilité du passé », écrit ceci « L'Amérique latine n'existe pas en tant qu'unité, essence, identité, promesse, avenir ou passé lointain ». Même chose pour l'Amérique latine, qui est en quelque sorte réifiée, qui est transformée en un bloc unique.
Oui, ben y a, après il y a un côté aussi bolivarien, non ? Disons que ce qui distingue les études décoloniales, par exemple des études postcoloniales qui les précèdent, c'est un projet politique. Il y a clairement, quand on lit les pères fondateurs du décolonial latino-américain, en plus d'avoir un projet scientifique, intellectuel, il y a aussi un projet politique. Et ce projet politique, c'est essayer de se constituer en avant-garde intellectuelle, en lien avec la réalisation d'une utopie. Et cette utopie politique, ben évidemment, elle est faite un peu de briques et de brocs en Amérique latine, à cause de la complexité de cette histoire coloniale. Et donc, il y a un côté millénariste qui essaye de remonter aux sources préhispaniques ou précolombiennes, mais il y a aussi un côté bolivarien, par exemple, avec cette utopie de la grande Amérique latine, où ces peuples frères qui devraient s'unir face à l'eurocentrisme et à l'impérialisme états-unien. Donc, il y a aussi, il faut voir, il ne faut pas perdre de vue cette visée politique et la construction d'une utopie politique qui explique en partie cette réification de l'identité régionale latino-américaine.
Et c'est pour ça que Daniel Inclan parle aussi d'instrumentalisation de l'histoire de la part de certains de ses universitaires.
Oui, oui, il y a beaucoup d'interprétations qui sont faites de la part des auteurs décoloniaux, de la part de ses pères fondateurs, mais il faut voir qu'il n'y a pas d'historiens, non, ou peu d'historiens dans un premier temps qui participent à la construction de ce courant. Et il y a clairement ce que nous reprochons, c'est certains simplismes historiographiques. C'est une interprétation de l'histoire, une philosophie de l'histoire ou un historicisme qui, des fois, peut être malhonnête dans le sens où il ne repose pas sur des faits historiques prouvés. Non, et de là aussi les réactions qui ont été assez vives parmi les historiens face à ce genre d'interprétation.
Alors quel est votre poids, je dis vous, en tant que collectif, les différents auteurs de ce livre, vous êtes 6 ou 7 à avoir rédigé ce livre, quel est votre poids sur place en Amérique latine dans le monde universitaire ? Est-ce qu'on vous considère comme des intellectuels minoritaires, ou est-ce que vous représentez un courant de pensée, de réaction significatif ?
Non, nous ne représentons pas, nous sommes clairement minoritaires. Aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que le courant décolonial a le vent en poupe. Oui. Il a rencontré beaucoup de succès dans le monde académique, mais aussi dans le monde militant. Aujourd'hui, si vous regardez l'organisation des congrès scientifiques en Amérique latine, il y a toujours un espace décolonial. Il y a des revues décoloniales, il y a des réseaux et des groupes de travail décoloniaux. Mais ce qu'on observe, et pendant les 20 dernières années, pendant que ce courant était en train de se construire, mais il y avait eu peu de critiques. Non, parce que c'était quand même quelque chose d'assez récent, non, de relativement nouveau. Il y avait une mode aussi, un engouement, bon, bref. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les critiques commencent à se multiplier, à se faire de plus en plus nombreuses. Et nous, ce que nous avons essayé de faire avec ce livre, c'est de réunir. Réunir des gens qui ne se connaissaient pas,
oui, et
forcément.
Qui représentent des disciplines différentes aussi, histoire, sociologie, philosophie, par exemple.
Et également des orientations politiques différentes. Oui. Parce qu'on nous a présentés comme des marxistes, mais ici, il n'y a que deux marxistes. Hein. Il y a aussi un Foucaultien, il y a des gens qui viennent d'autres traditions politiques. Donc, ce qu'on voulait faire aussi, c'est montrer la diversité de la critique depuis différentes disciplines, différents pays, différents points de vue ou traditions politiques ou universitaires. Et aujourd'hui, ce que l'on voit avec le livre de Michel Cahen ou de celui de Stéphane Dufoy ou d'autres qui sont en train de sortir, c'est justement face à ce succès mondain rencontré par le courant décolonial dans le monde académique, ben aujourd'hui, le besoin d'une réponse, le besoin d'une critique beaucoup plus nourrie, beaucoup plus documentée, de quelque chose qui, jusque-là, répondait plus à une mode. Non, mais aujourd'hui, il y a clairement un besoin de critique et oui. d'une critique de gauche. Parce que la critique de droite, ici en France, elle existe.
Alors justement, quelles sont les critiques que l'on vous adresse après la sortie de ce livre ? Vous êtes d'infâmes réactionnaires, par exemple ?
Non, parce que notre perspective reste anticoloniale.
Bien entendu.
Nous revendiquons de Frantz Fanon et de beaucoup d'autres auteurs et d'intellectuels latino-américains qui sont catalogués à gauche, non, de la tradition anticoloniale.
Donc, mais dans ce moment où le débat est très difficile à mener, j'imagine qu'on vous enferme dans une case.
Ben, on ferait le jeu de la droite, non, grosso modo. Mais je trouve que ce reproche, aujourd'hui, il est pas recevable. Non, je pense que la gauche internationale a suffisamment souffert de cet argument, surtout au XXe siècle, avec toutes les dérives qu'on lui a connues. Non, si tu critiques le parti ou la révolution, du coup, tu es dans le camp de la réaction ou de la contre-révolution. Tu es un ennemi du processus révolutionnaire. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce sera... C'est vraiment politiquement dangereux de continuer à reproduire cet argument. Mais c'est également factuellement faux. Parce que si on regarde, par exemple, la recension qui a été faite de notre livre dans le Figaro, on voit qu'ils essayent de nous utiliser, évidemment, pour attaquer ce qu'eux appellent le décolonialisme. Mais en ce faisant, ils sont obligés d'une certaine façon de reconnaître la validité de nos thèses. Et du coup, on les amène sur notre terrain. Et la journaliste, dans ce cas, elle finit par se contredire elle-même. Et je dirais même que c'est l'inverse. Là, c'est plutôt la droite qui fait le jeu de la gauche, parce que je me mets dans les chaussons d'un lecteur du Figaro, devoir lire du Frantz Fanon dans le Figaro, c'est quand même assez cocasse, non, je trouve.
Merci Pierre Gossens. Votre livre que je recommande, livre collectif, qui a été au cœur de notre conversation, s'intitule « Critique de la raison décoloniale sur une contre-révolution intellectuelle ». Ce livre est publié aux éditions L'Échappée et vous retournerez bientôt sur votre terre du Mexique.
Oui, très bientôt. Et merci beaucoup pour votre invitation.
Idée réalisée naturellement par Vanessa Rovansky. Retrouvez toute la collection de l'émission sur notre site, sur l'appli RFI par exemple. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde.